C'est avec joie que je poursuis cette série des paroles aux actes ce matin. Quatrième volet, quatrième message. J'avais commencé par vous introduire cette série en vous disant que la plus grande de nos difficultés, c'est de passer de la théorie à la pratique. Et puis je crois que vous étiez assez d'accord avec moi. Et le but de cette série, c'est vraiment de nous encourager en tant qu'Église à avoir des outils pour aller, alors qu'on désire vraiment ensemble être tourné vers l'extérieur et puis pas juste vivre notre petit confort à l'intérieur, mais vraiment avoir un impact dans la société, et bien on a besoin de réaliser qu'est-ce qui nous manque parfois entre nos paroles et nos actes. Et j'avais dit ceci. Il y a souvent un décalage entre nos paroles et nos actes. Ce décalage, c'est la distance qui sépare notre tête de notre cœur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a comprises là, mais qui ont de la peine à descendre et qui ont de la peine à venir dans notre cœur, qui vraiment viennent motiver, encourager notre marche, viennent nous pousser en avant. Alors, dans les deux derniers messages, nous avons commencé à vous donner des outils pour mieux visualiser ce que nous avons besoin pour vivre ce changement. Et Raffaele nous a parlé de notre manière d'écouter. Vous vous souvenez certainement, avec des bons exemples. Et puis, Jean-Jacques, la semaine dernière, nous a parlé de l'audace, d'être audacieux, d'avoir ce courage pour avancer. Et puis, à la fin de ce culte, la majorité de l'Église s'est levée et a dit oui, on le désire, on désire saisir cette audace pour agir. Oui, Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous étiez, j'espère que. Moi, j'ai commencé aussi, hein. J'ai eu l'audace d'aller chez le dentiste, ça faisait 3 ans que j'y étais pas allé. Et puis, quand il m'a demandé ce que je faisais comme travail, ben oui, c'est toujours le moment crucial, quoi. Quand je lui ai dit que j'étais pasteur, il m'a dit, ah, c'est pour ça, vous avez du temps en semaine. Bon, c'est mon jour de congé le mercredi, bon. Ah, c'était pas tout à fait l'entrée que j'espérais, mais enfin. Puis vendredi, je me suis rendu au forum des décideurs chrétiens qui avait lieu à Lausanne. Plusieurs y étaient, Johannes que je vois qui était aussi là. Et puis le thème de ce forum, c'était des choix courageux. Et un entrepreneur a repris cette citation de Nelson Mandela qui dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Vous avez certainement déjà entendu ça. Alors si vous avez dit oui à Dieu dimanche passé, peut-être qu'il y a des peurs qui sont là, et puis ces peurs, ben, elles ne sont pas anormales du tout, mais j'aimerais vous encourager à être courageux pour vaincre ces peurs. Et puis le reste, Dieu va s'en occuper. Faites-lui confiance. Amen. Et nous avions vu aussi avec Jean-Jacques ce verset 29 du chapitre 4 des Actes qui dit ceci, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Il manque un T. Je vais corriger tout de suite, les amis. Vous êtes en direct. Yes. Non, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. Hein. Pardon. Et je crois que c'est vraiment cette prière-là que nous voulons garder, que nous voulons faire nôtre. Et aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin et parler du cœur de serviteur. Pour passer des paroles aux actes, il faut de l'audace, il faut du courage pour entrer dans l'action, mais notre attitude de cœur est très importante. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui serait d'accord d'aller me chercher un verre d'eau? Il y en a plusieurs qui se demandent si c'est un gag. Merci. Non, alors que j'ai dit ça, je parle du cœur de serviteur, quelqu'un qui va me chercher un verre d'eau, c'est vrai que ça matche bien. Hein? Je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête. Peut-être certains ont dit, bon, il a qu'à aller se le chercher tout seul. Peut-être quelqu'un a dit, il y a sûrement quelqu'un qui va aller, qui est plus proche de Luc. Peut-être que d'autres ont dit, moi, je ne sais pas où il y a de l'eau. Peut-être certains ont dit « Ah, moi je vais me lever, je l'aime bien, je peux bien lui rendre un petit service. » Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre tête, mais certainement qu'il y a plusieurs choses qu'on va voir dans ce message qui feront écho peut-être juste à cette petite demande que j'ai faite dans la salle. Peut-être quelqu'un a dit, ah bah peut-être ce serait pas mal que j'aille lui apporter le verre d'eau parce que comme ça tout le monde me verra. C'est moi qui serai le plus rapide. Je ne sais pas. Réfléchissez. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ah voilà, si personne n'y va, j'irai. Ouais, ça c'est pas mal aussi comme devise. Hein, merci, on peut remercier Raphaël. Merci mon frère. Yes. Dans ce verset 29 du chapitre 4, les apôtres, vous avez peut-être remarqué, se définissent comme des serviteurs. Alors ça peut sembler banal, hein, parce qu'on voit souvent ce mot dans la Bible, et puis peut-être même si souvent qu'on n'y prête plus vraiment attention. Mais je veux vraiment m'y arrêter ce matin. Ces hommes et ces femmes qui étaient présents dans cette pièce, qui s'adressaient à Dieu, disent « Donne à tes serviteurs ». Ils n'ont pas dit « Donne à tes super apôtres ». Ils auraient peut-être pu, hein ?« Donne à tes super apôtres », non ? Ils n'ont pas dit non plus « Donne à tes héros qui vont changer le monde, à qui tu as donné l'esprit ». Non, ils n'ont pas dit ça non plus. Ils ont dit « Donne à tes serviteurs ». Ils n'étaient pas enflés d'orgueil, ils n'étaient pas vraiment sûrs d'eux, pas nécessairement confiants, mais ils se reconnaissaient dans ce titre de serviteur. Et ce mot ici peut se traduire par « esclave ». C'est le mot dans le grec « doulos ». Et c'est étonnant parce que dans le Nouveau Testament, le mot grec que l'on traduit généralement par serviteur, hein, c'est diakonos qui a donné diacre, le diaconat. Ça, c'est le service dans un sens général, qu'on comprend bien, le service aux tables, donner un coup de main là où il y a des besoins, etc. Mais eux, ici, disent « donne à tes esclaves ». C'est donc beaucoup plus fort que serviteur dans le français, vous êtes d'accord ? Quand on lit ça, on dit « wow, donne à tes esclaves ». Moi, je ne sais pas vous, mais ce n'est pas tous les jours que je dis « Seigneur, donne à ton esclave ce dont il a besoin ce matin ». C'est rare que je prie comme ça. Je ne sais pas vous, hein, peut-être que dans le secret, vous êtes à l'aise avec ça. Pourtant, Jésus va affirmer en Matthieu 20, les versets 26 à 28, il va dire, j'étais un peu en retard, « Si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur, et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. » Donc les deux mots sont utilisés ici, et Jésus se place clairement comme celui qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Lorsqu'on parle d'esclave, on pense à la souffrance, on pense à un travail dur, à une servitude forcée. Alors peut-être ça vous étonne de voir ces disciples qui se disent « on est des esclaves ». Mais il faut comprendre ici plutôt comme un attachement, comme une identification à Christ, un cœur consacré à Jésus et à son œuvre. Et on l'a vu avant dans la Sainte Cène, Paul dira de Jésus en Philippiens 2, 5, 8, « Ayons-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, doulos, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Amen. Donc, il a pris une forme, il est devenu esclave, serviteur, mais doulos. Il s'est humilié, il a donné sa vie pour nous. Alors, le fait qu'eux-mêmes, ces apôtres, se considèrent comme des doulos, on dit long quand même sur leur disposition de cœur. J'imagine que vous arrivez un petit peu à saisir leur disposition de cœur à ce moment. Il y a un amour pour le maître, pour Dieu, pour Jésus. Il y a un zèle, il y a une obéissance, une consécration, il y a un renoncement, un amour qui est prêt à se donner au détriment de leur propre vie, comme Jésus l'a fait. Il y a tout ça dans ce mot. Les apôtres avaient un cœur de serviteur. Ils n'avaient pas juste un cœur de rendre quelques petits services. Il y avait un cœur de serviteur. C'était vraiment profond. Il y avait un engagement à tout donner pour que le plus grand nombre découvre que Jésus a donné sa vie pour la leur. Dans l'Église, on parle souvent de notre identité de fils et de fille. Puis c'est très bien, il faut le faire, il faut le réaliser, on est fils et filles du Dieu très haut. On parle un peu moins souvent de notre identité de serviteur. Et je vous pose cette question, est-ce que je me considère comme un serviteur du Seigneur? Est-ce que vous-même, vous pouvez dire oui, je suis un serviteur du Seigneur? Je n'ai pas besoin de réponse, mais posez-vous cette question. Pour passer aux actes, nous devons retrouver ce cœur de serviteur. Je vais en profiter de celui du cœur de Raphaël. Merci. Je vous propose donc ce matin quatre qualificatifs du cœur de serviteur. Ce n'est pas une liste exhaustive. Premier, le cœur de serviteur, c'est un cœur qui aime. Parce que sans amour, je ne sers personne à l'exception de mes propres intérêts. Le service en lui-même est une marque d'amour. C'est même un langage d'amour, selon Gary Chapman. Vous avez tous lu ça, les couples qui sont là, vous avez lu les cinq langages de l'amour, j'imagine. Très bien. Rendre des services, le service rendu, c'est un langage d'amour. Messieurs, hein? Bon. Alors, le cœur du serviteur est un cœur qui aime, mais qui aime Dieu. Et comme nous venons de le voir, les apôtres sont prêts à prendre des risques courageux, d'abord parce qu'ils aiment Dieu, ils aiment Jésus. Ils ont ce désir de le servir, de répondre à son appel, d'aller, d'être des témoins qui montrent par leurs actes que Jésus est bien ressuscité, vivant, tout-puissant. Mais, donc ça c'est leur première motivation, ils servent Dieu, un Dieu qu'ils aiment. Mais le cœur du serviteur aime aussi les gens, puis je crois que c'est hyper important. Il est intéressé par la personne. Il désire voir l'autre être transformé, guéri, relevé. Il sert avec un réel amour qui ne voit pas la personne à travers ses difficultés, à travers ses erreurs, son passé, mais il voit ce qu'elle est appelée à devenir. Il voit l'œuvre de transformation que Jésus veut faire dans sa vie. Et ce regard-là, il est important. Alors le cœur de serviteur va servir avec l'autre, avec l'amour de Jésus. Donc le service et l'amour sont liés. Si je sers sans aimer Dieu d'abord, eh ben je fais un acte religieux. Si je sers l'autre sans m'y intéresser sincèrement, ben peut-être je suis un hypocrite. Mon acte ne va jamais atteindre son cœur. Peut-être que ce sera juste de la politesse, à la limite. C'est quelque chose de poli, c'est sympa, c'est bien, c'est de l'éducation, finalement. Mais rien va aller toucher le cœur de l'autre s'il n'y a pas l'amour. Alors c'est important de se poser la question. Est-ce que je fais ce que je fais par amour pour Jésus et par amour pour les autres? Et là, dans tout ce que vous faites, vous pouvez vous poser cette question-là. Est-ce que je suis impliqué dans un endroit, est-ce que je fais par amour pour Dieu et pour les autres ou finalement c'est pour moi? Servir sans amour, c'est sec et stérile. Et nous pouvons demander d'être remplis de son amour par le Saint-Esprit, d'être transformés par son amour pour servir avec son cœur. J'ai mis « servir », ce n'est pas une liste de tâches sur un papier, mais c'est une intention envers une personne, c'est aimer l'autre en action, c'est aimer et honorer Dieu par nos actes. Parfois on pense que, une fois quelqu'un avait donné, c'est un exemple que j'avais trouvé rigolo par rapport dans le couple, hein, le gars rentré à la maison et puis il avait une liste à cocher. Hein, salut ta femme, coucou chérie, tac, demande-lui comment s'est passée la journée, ça a été ta journée, ok, ça c'est fait. Puis il avait sa liste comme ça. Est-ce que c'est ça, aimer? Est-ce que c'est des choses sur une liste, des tâches sur une liste? Non, bien sûr que non. Alors le cœur du serviteur aime, il aime Dieu, il aime les autres. Deuxièmement, le cœur du serviteur est humble. Un service dans sa définition est tourné vers l'autre. On rend service à quelqu'un. On offre un service à quelqu'un. Et être un serviteur fait appel à l'humilité, car c'est une position qui implique l'humilité. C'est une position connotée d'inférieur. Naturellement, hein, si on se laisse aller, naturellement, on cherche plutôt à être servi, à être le plus grand, le premier, à être celui qui réussit. Donc ce n'est pas naturel. Mais encore une fois, Jésus a renversé cela. Le plus grand, c'est le serviteur. Le premier, c'est l'esclave. C'est le chemin qu'il a lui-même ouvert. Et dans son livre qui s'intitule « Vers la gloire par l'humilité », Jean-Marie Ribet, qui est pasteur à la Porte Ouverte de Mulhouse, a donné cette définition intéressante. Il a dit « L'humilité n'est pas l'absence d'orgueil, mais la connaissance et l'acceptation de soi sous l'éclairage de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on a parfois l'impression qu'avoir un cœur de serviteur humble, ça veut dire s'écraser, ça veut dire être un paillasson, ça veut dire dire oui à tout peut-être. Ou ça veut dire ne pas oser exploiter ses ressources, ses forces. Mais le serviteur humble, il sait qui il est en réalité. Il connaît sa valeur, il connaît ses points forts, ses faiblesses. Et il peut vivre cette réalité du service en étant détaché du regard des autres sur lui-même et en étant détaché de ses propres intérêts. Parce qu'il sait qui il est, il a la connaissance et l'acceptation de soi sous l'éclairage de Dieu. Et ça, c'est important aussi. Et ça tombe bien parce que la mission que Dieu nous demande d'accomplir, les actes que nous devons poser sont pour la plupart, et vous l'avez certainement remarqué, ils sont décentrés de nous-mêmes. Ils sont pour les autres. C'est rare que Dieu va te donner une vision ou une mission juste pour ta propre vie et pour ton propre confort. Je ne veux pas l'exclure, mais c'est très rare. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu ça dans ma propre vie. Et je crois que vous non plus. Dieu désire que nous soyons décentrés de nous-mêmes. Dieu veut que nous agissions pour lui, pas pour nous. Et il faut le reconnaître, c'est vraiment très dur. C'est difficile. Je me souviens d'un cours à l'école biblique où on avait parlé de l'humilité, puis le prof avait demandé qui dans l'auditoire, dans la salle, dans cette salle, se considère comme humble. Puis là, on avait une fille là, qui a levé la main comme ça, moi, comme ça. Et puis le prof lui dit, n'est-ce pas un peu orgueilleux de pouvoir prétendre qu'on est humble par soi-même ? Et puis là, elle était toute gênée, du coup, elle redescend sa main, et puis on a tous bien rigolé dans la salle parce qu'on se connaissait bien. Et puis, je me suis dit intérieurement, j'ai bien fait de ne pas lever la main hein, quand même. Parce que finalement, je suis vachement plus humble qu'elle. Hein. Nous sommes orgueilleux, c'est sûr. Vraiment. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Parfois, on fait quelque chose avec un bon cœur. Mais au fond, on sait quand même qu'on va avoir un bénéfice, qu'il y aura quand même une récompense. Ça part d'un bon sentiment, mais derrière, il y a quand même quelque chose. Puis après, on dit, à lui la gloire, hein, à lui toute la gloire. Tout. Là, ça va, mais des fois, je vois des gens dans la louange, des photos, ils sont là comme ça et tout. Puis, tu es là, ouais, bon. Puis, oh, mais gloire à Dieu. Hein, puis, donc, voilà. On est là-dedans quand même. Et puis, souvent, le risque, c'est qu'après, on tombe dans la fausse modestie, en fait. Alors, être un serviteur humble est possible si l'on connaît notre valeur aux yeux de Dieu, que l'on n'a plus besoin de se nourrir des compliments des autres. Mais c'est important parce que si on est encore dans cette attitude-là, on peut perdre l'objectif initial. On peut commencer à passer aux actes, mais finalement, on va perdre la mission que Dieu nous a donnée. On va, à la place d'être derrière le spot, le projecteur, pour aider quelqu'un à avancer, on va tourner les projecteurs vers soi. Puis on va perdre ce que Dieu a voulu faire. Je peux être un bon serviteur, un serviteur efficace, un serviteur qui voit le fruit de son travail et m'en réjouir, sans tomber dans le piège de l'orgueil ou de celui de la fausse modestie, si je sais qui je suis. Et Paul exhorte les Colossiens à être revêtus d'humilité. Donc c'est pas seulement, on peut la demander, d'accord ? On peut prier cela, on peut confesser notre orgueil tout en se laissant transformer par celui qui veut faire de nous des humbles serviteurs. Amen. Le cœur de serviteur, c'est quelqu'un qui est humble. Troisièmement, ma télécommande, je les piles. Un cœur généreux. Le cœur du serviteur est généreux. Il travaille pour donner et non pour recevoir. Il ne considère pas ses propres besoins, sachant que Dieu s'en occupe. Et là, je reviens dans les Actes avec l'exemple de Paul au chapitre 20. C'est un passage, chapitre 20, qui est plein d'émotions, parce que Paul fait voile vers Jérusalem, et vous savez que le contexte de ce retour à Jérusalem était très compliqué. Il y avait des craintes qui étaient là, il y allait vraiment conduit par l'Esprit. Et puis, il va faire une rapide escale à Milète, pour dire au revoir aux anciens de l'église d'Éphèse qui vont venir le rejoindre. Ils font, vous savez, des fois, on donne un lieu de rendez-vous, chacun fait un petit bout. Alors ça, c'est ce qu'ils ont fait. Donc les anciens sont venus d'Éphèse à Milète pour voir Paul qui passait là. Puis c'est des anciens avec qui il avait beaucoup cheminé. En 2-3 ans, ils avaient passé du temps ensemble. Donc c'était des au revoir pleins d'émotions. Et puis il va leur dire, je vais relever 3 versets de choses qu'il va leur dire qui sont... puissant, j'ai envie de dire, comme ça. Actes 20, 18, 19. Vous savez bien, vous, comment je me suis comporté avec vous tout le temps. Depuis le premier jour, quand j'ai mis les pieds en Asie, j'ai servi le Seigneur comme un esclave, en toute humilité, dans les larmes, au milieu des épreuves que me valaient les complots des Juifs. Donc on retrouve là ce que j'ai dit dans ces 2 versets, il a servi comme un esclave dans l'humilité, mais aussi dans les larmes, et j'y reviendrai. Et puis, il conclut, donc on voit, il y a quand même, il leur partage encore son cœur, c'est probablement la dernière fois qu'il va les voir, donc il dit ces choses-là. Et puis, il termine au verset 35, « Je voulais toujours montrer, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Amen. Paul avait ce cœur de serviteur généreux. Ce cœur qui ne compte pas, mais qui donne. Et dans ce verset 35, il parle de travail et de don. Il faut travailler, mais il y a du bonheur à donner. J'ai travaillé dur, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Son action, son service, son travail devient un don. Quelle est votre attitude lorsque vous servez? Que ce soit dans ces lieux ou à l'extérieur de ces lieux? Êtes-vous sans cesse en train de regarder votre montre? Vivement que ce soit fini, hein. Vivement que j'aille terminer ce qu'on m'a demandé de faire. Est-ce que vous êtes en train de calculer les coûts? Alors si vraiment les gens se rendaient compte que je suis déjà venu depuis Villars-Burquin, jusque-là, gratuitement, puis en plus... C'est encore tout moi qui dois ranger. Dans le séculier, on m'aurait quand même payé. Puis je ne suis pas à 30 balles de l'heure. Où est-ce que vous donnez de votre personne généreusement? Est-ce que vous avez aussi réalisé que dans votre travail de tous les jours, vous servez quelqu'un? Est-ce que vous avez réalisé ça? Non seulement... La parole nous invite à tout faire pour la gloire de Dieu. Donc là où vous êtes, vous servez Dieu. Vous pouvez servir Dieu avec cette dimension, si on en est conscient, bien sûr. Mais en faisant ce que vous faites, vous servez forcément quelqu'un d'autre. Et cela peut être de manière directe ou indirecte pour un client. Selon où vous travaillez, à des clients. Ce serait bien si vous voulez gagner quelque chose. Mais ça peut être aussi votre collègue ou votre chef. Vous allez le servir en lui transmettant peut-être un dossier qu'il va pouvoir utiliser compléter, etc. Et j'ai lu l'expérience intéressante d'une entreprise qui fabriquait de l'équipement de bureau et qui faisait plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Et puis, voilà que le chiffre a commencé à descendre année après année et la direction cherchait des solutions. Alors, ils ont mis des nouveaux objectifs. Ça, c'est le truc classique. On fixe de nouveaux objectifs, on met les gens au courant et puis on leur dit « travaillez plus ». Travailler mieux, regarder les objectifs. Alors ils ont fait ça, mais malheureusement, le résultat n'était pas là, ça n'a rien changé. Et puis, finalement, ils ont décidé d'investir dans une formation pour chaque employé, les cadres y compris. Et cette formation devait leur permettre d'identifier leurs clients. L'idée, c'était de déterminer qui ils servaient. Qui est mon client ? Et quel est son besoin? Et cette simple démarche a permis à l'entreprise de renouer avec la croissance. Parce que la mentalité, la manière de travailler avait changé. D'un coup, ils avaient compris qu'ils ne travaillaient pas au service, qu'ils n'étaient pas là pour eux-mêmes, mais qu'ils travaillaient au service de quelqu'un d'autre. Ils ne travaillaient pas juste pour eux ou pour leur petit salaire, il y avait quelqu'un derrière. Ils pouvaient donner quelque chose de valable au maillon suivant. Puis ça a changé la mentalité. Servir, c'est donner. Donner de sa personne, de son temps, de son savoir-faire, de son savoir-être, de son argent, de son amour. Et Dieu cherche de tels hommes et de telles femmes, avec un cœur de serviteurs généreux, qui sont disponibles sans condition préalable. Parce que souvent, on met des conditions. On dit, ok, je suis d'accord, de servir sans compter, pour autant que... Non, ce n'est pas ça que Jésus recherche. Le cœur du serviteur est un cœur généreux. Quatrièmement, le cœur du serviteur, c'est aussi un cœur qui ne renonce pas devant la difficulté. Et nous venons de lire dans ce verset 18 et 19 que Paul a servi dans les larmes. Et il y a tellement de nombreux exemples où Paul il dit mais on a souffert, mais j'ai failli mourir, mais j'étais découragé, il y avait des luttes, tellement de luttes, etc. etc. Mais Paul n'a pas renoncé. Et je trouve qu'il serait assez facile de laisser tomber lorsqu'on parle de service, lorsqu'on parle de quelque chose qui n'est pas pour nous. Parce que lorsque c'est quelque chose pour lequel je me bats, lorsque c'est quelque chose qui est pour moi, que je veux vraiment, lorsque je sais qu'il y a une récompense, là je ne lâche pas. Mais quand c'est quelque chose dans une dimension de service, c'est un peu différent. En plus, je le fais bénévolement. Alors franchement, vous imaginez si Paul avait dit ça? Vous imaginez combien de fois Paul aurait pu le faire? Bon, écoute, Jésus, toi maintenant t'es parti, moi j'ai que des galères, donc maintenant débrouille-toi sans moi. Non, il n'a jamais fait ça. Car il savait qu'il servait, qui il servait, et que ce qu'il faisait le dépassait complètement. Ce que Dieu nous appelle à faire en tant que serviteur ne sera jamais tout simple. Mais notre travail, notre job, c'est d'aller au bout avec ce cœur qui aime, ce cœur qui est humble et généreux. Le reste ne nous appartient pas. Je vais vous donner un tout petit témoignage. Il y a quelques années, j'étais appelé à servir dans un comité d'une association chrétienne que je sers toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, j'avais vraiment la conviction que c'était juste, que je devais le faire. Et je m'y suis impliqué de tout mon cœur. Puis après 2 ans environ, voilà que les ennuis arrivent. Il y a un membre du comité qui a vraiment cherché à me tirer en bas, à m'éliminer, j'ai envie de dire. C'était vraiment dur. Il y a vraiment un conflit avec moi. Puis moi, je n'ai pas forcément l'habitude d'avoir des conflits avec beaucoup de gens. Alors là, je peux vous dire que c'était assez rude. Et franchement, vous savez, vos pensées, elles sont obnubilées après par ça. Vous pensez toujours à ça, ça vous travaille sans cesse, etc. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment failli arrêter. Je me disais, mais je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis là pour... Je donne mon cœur, j'y vais à fond, c'est vrai, je suis bénévole en plus. Si c'est pour me retrouver avec des histoires qui me prennent la tête, qui me perdent du temps, j'ai meilleur temps d'arrêter. Je crois que c'est bien ce que l'ennemi aurait voulu. Mais le Saint-Esprit m'a interpellé avec 2 questions. Qui sers-tu? Pourquoi es-tu là? Ok, je ne peux pas exclure que ma position dans cette association avait aussi conforté quelque chose en moi. J'étais quand même assez fier. Donc c'est sûr que ça est venu me chercher cette question. Mais ma réponse a quand même été, Seigneur, je veux te servir toi. Et puis je suis venu encourager, à pouvoir apporter une bénédiction pour des hommes. Et après ces 2 questions, quelque chose s'est passé dans ma vie, parce que j'ai compris que je devais aller jusqu'au bout. Ce n'était pas moi, je ne servais pas, j'étais pas là pour moi-même, je servais lui. Puis lui, il était là. je devais continuer. Ce n'était pas moi qui était important, mais c'était Dieu qui voulait faire quelque chose pour ces hommes que cette association sert. Donc, dans ce contexte, le service signifiait aussi traverser cette épreuve et persévérer. Ce n'était pas à propos de moi. Ce n'était pas mon petit confort. C'était pas... Non, Dieu, il a utilisé ça pour me former, mais lui, son but, il était bien plus loin. Lui, il était là, il était le maître. Alors, je devais regarder à lui. Et trop souvent, c'est vrai, on préfère se retirer. Mais on doit saisir cela, on n'est pas là pour nous. L'enjeu est autrement plus important que mes quelques difficultés du moment. Et cela vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Jésus est le plus grand, est bien plus grand, est bien plus grand que nos problèmes, que nos difficultés. Et puis, il n'y a rien qui vaut plus la peine que d'avoir une vie qui le sert. Et ça, je peux vous le dire et vous le témoigner. Et on peut, comme je l'ai dit, on peut le servir à chaque moment, à chaque jour. Mais avoir ce cœur qui sert notre Seigneur, il n'y a rien de meilleur. Alors, pour passer aux actes, notre attitude de cœur doit être celle de serviteur. Des serviteurs attachés à Jésus, prêts à le servir jusqu'au bout par amour. Des hommes et des femmes qui choisissent de se mettre au service de leur prochain dans le besoin, avec ce cœur humble et généreux. Et peut-être que pour certains de vous, servir, c'est normal. Vous avez, c'est presque une éducation. C'est vrai, on apprend à nos enfants à être serviables. Puis je crois que c'est très important, c'est juste de le faire. Pour certains, c'est même difficile d'imaginer les choses autrement. Hein. Moi, j'en connais beaucoup. Hein, quand on doit leur dire à la personne, mais reste assise, on va te servir. Non, non, c'est des vrais ressorts. Mais j'aimerais rappeler aussi que Jésus, je voulais dire aussi pour ceux pour qui c'est plus difficile, pour qui ce n'est pas quelque chose de naturel, j'aimerais aussi vous dire que le cœur, comme organe, c'est un muscle qui se travaille. Je crois aussi que le cœur de service, c'est quelque chose qui se travaille de la même manière. Par des petites choses, avec cette attitude de cœur-là, vous pouvez grandir. Et je voulais juste rappeler que Jésus a commencé par servir 12 hommes, des gars qui étaient bien ordinaires, qui sont devenus, en tout cas pour 11 d'entre eux, des leaders au service du Seigneur. Il a dû les former. Et c'est à eux que Jésus a lavé les pieds en leur disant « Faites de même ». Et dans notre texte d'Actes 20, Paul s'adresse aussi à des leaders, à des responsables d'église. Et c'est à eux aussi qu'il rappelle qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc on parle beaucoup aujourd'hui de leadership, mais aujourd'hui le leadership est souvent, et tant mieux, associé au service. On parle de leader-serviteur. On est passé d'un modèle de chef un peu dominateur, parfois tyran, écrasant, à un modèle de chef qui influence par l'exemple et par le service. Et j'aimerais vous encourager à devenir des leaders, serviteurs. J'aimerais vous redire que là où vous êtes, vous avez une influence. On a toujours une influence à quelque part. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'être un ou une leader, mais pourtant, vous l'êtes dans certains domaines, c'est sûr. On a tous au moins une personne autour de nous qu'on influence. Et peut-être c'est dans notre propre famille, c'est peut-être nos enfants, c'est peut-être juste un ou deux collègues, les membres aussi d'un comité dont vous faites partie, votre PP, je ne sais pas quoi. Mais là où vous pouvez influencer, vous pouvez choisir de le faire avec un cœur de serviteur. Vous pouvez choisir d'être des leaders serviteurs. Et ensemble en église, j'aimerais encore vous encourager une fois, une dernière fois, à passer, non pas une dernière fois parce que, à passer concrètement des paroles aux actes, et cela à travers le Service Pack. J'aimerais vraiment encore vous encourager parce que Service Pack, c'est justement se mettre au service de la ville, du quartier, de notre prochain. Et je vous encourage donc à vous inscrire et à passer à l'action. Jeunes et moins jeunes, vous pouvez le faire, on peut le faire tous ensemble, et on peut, même si vous n'avez que 2 heures en samedi ou le dimanche, vous pouvez, c'est possible de le faire. Mais j'aimerais pas juste qu'on le fasse comme ça. J'aimerais faire le lien avec ce message. J'aimerais nous encourager à le vivre avec ce cœur de serviteur. Pourquoi je veux faire le Service Pack? Je ne viens pas pour moi-même. Je ne viens pas pour mettre en avant l'escale, puis pouvoir dire « Oh, l'escale, enfin un tas de choses super ». Non. Je viens parce que je suis serviteur de Dieu. Que je l'aime. J'aime Dieu. Je viens parce que j'aime ma ville. Je viens parce que j'aime les habitants qui la composent. Je viens avec un cœur généreux qui désire donner au lieu de recevoir. Je viens même s'il pleut. Je viens même si ça me coûte quelque chose. Parce que celui que je sers est au-dessus de tout ça. Et il est important que mon service atteigne sa cible si l'on veut pouvoir en mesurer l'impact. Si j'arrête, si je ne viens pas, si je me retire, il n'y aura rien. Alors que les musiciens peuvent revenir sur la scène pour prendre un chant encore. J'aimerais, si vous êtes d'accord, juste qu'on se lève ensemble. Pour dire à notre Seigneur, lui qui a tout donné et qui continue, hein, lui qui continue à nous servir jour après jour, je ne sais pas si vous réalisez, hein, il continue, notre Seigneur continue à nous servir jour après jour, à répondre à nos besoins, que ensemble nous désirons être ses serviteurs, que nous souhaitons que l'Esprit Saint s'ouvre sur nous, qu'il vienne modeler notre cœur pour que nous puissions vraiment vivre, être des serviteurs avec ce cœur humble, généreux, persévérant. Que notre prière en cette fin de matinée puisse être « Fais de nous des serviteurs. Fais de nous des serviteurs. Modèle mon cœur pour que je sois un serviteur. »